suivre est une rediffusion. Restez à l'écoute.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines bien sûr. Aujourd'hui, quoi de neuf dans la barquette du fast-food? Depuis l'invention du sandwich à la viande hachée et des frites, le tout emporté dans une petite boîte en carton, eh bien, il s'est passé beaucoup de choses dans les cuisines des fast-food. La cuisine de rue est passée par là avec le brassage des cultures, une pointe d'Orient, d'Asie, de végétariens. Bref, y a-t-il désormais autant de menus que d'habitudes alimentaires? Peut-on aujourd'hui, dans plusieurs villes du monde, manger vite, bon et pas cher? Ça fait beaucoup de choses. Nous allons en discuter avec nos invités. Bonjour Esther Mickel.
Bonjour.
Alors comme votre nom ne l'indique pas, vous parlez couramment japonais. Je pensais que vous alliez nous dire bonjour en japonais.
Konnichiwa.
Vous avez fondé Koedo. C'est un restaurant de vente à emporter de Ekiben, c'est ça?
Exactement.
C'est-à-dire c'est la contraction de...
C'est la contraction de deux mots, Eki qui veut dire la gare et Bento qui veut dire le plateau repas qu'on mange en dehors de la maison.
Et derrière le comptoir de votre minuscule fast-food sur le quai d'une gare, eh bien ce sont des japonaises en
c'est
dehors
ça.
De vous.
Nous sommes une équipe de 10 personnes et 9 japonaises qui travaillent à mes côtés.
Carole Iso, vous êtes également avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous gérez la Fourchette des Anges, c'est un food truck végétalien.
Oui, végétalien,
c'est
tout
ça.
À fait.
Bon, en français donc, un camion et des menus sans viande.
Sans protéines animales, sans lactose, sans gluten. On y tient
ça
parti.
Ça fait beaucoup de sang. Qu'est-ce qui reste ensuite dans la barquette? Vous allez nous en parler.
Oui, tout à fait.
Bien
tout
sûr.
À fait.
Et on aura peut-être des recettes. Émile M. Elmalem, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes installé à Dakar, vous avez fondé la chaîne Tangus Food. Tangus, c'est dérivé du Wolof, Tangana.
Enfin, ça vient du mot de... Enfin, on a un petit peu du Tangana, de oui. la gargote traditionnelle qui existe sur Dakar.
C'est ça, voilà. le manger dehors. Ouais. Vous nous direz ce que vous proposez. Alors là, c'est du fast-food un peu plus traditionnel. Bernard Boutboul, vous êtes également avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de Gira Conseil, qui est un cabinet de conseil spécialiste de la restauration. Et évidemment, vous observez les habitudes alimentaires. Vous conseillez des entreprises qui veulent lancer des business de restauration, notamment de restauration rapide. Et quant à vous, les voisins, on mange quoi dans votre fast-food, dans votre ville? Appelez-nous dès maintenant pour nous parler de vos maquis express préférés ou peut-être au contraire de vos aigreurs culinaires, je ne sais pas. Debout ou assis, en tout cas, un seul numéro de téléphone à composer dès maintenant. C'est le 33 1 84 22 71 71. Et bien sûr, tous les messages postés sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Je vous lis des messages, vous pouvez bien sûr commenter. Ousmane, qui a 37 ans, il est à Ouaga, au Burkina Faso. La plupart des gens ici mangent dans des fast-foods qu'on appelle des kiosques. Oui, le mot change évidemment selon les pays. La spécialité, c'est les pâtes, les spaghettis, avec des tomates et du pain. On mange ça rapidement, on retourne travailler ensuite, rien de tel pour se bourrer le ventre à moindre coût. Voilà, moi, bon, il est conscient. Hein. On s'en contente, même si on sait que ce repas ne nous apportera rien nutritionnellement. Là, on voit qu'il y a les chroniques santé qui sont passées par là, hein, tout de même, dans la tête des auditeurs. Abdoulaye, à Conakry, en Guinée, je ne connais pas du tout les fast-food, alors je mange souvent dehors. Et vous savez pourquoi? Je ne veux pas avoir de problèmes de santé, notamment au ventre, alors je mange du riz. Rien que du riz, toujours du riz. Je ne mangerai pas leur plat gras en sauce avec du manioc, des patates. Voilà, ça c'est le message d'Abdoulaye. Chris, qui est aux États-Unis, lui, nous dit qu'au pays du fast-food, on sait que ce genre de nourriture est à l'opposé de la bonne bouffe. Avec le pouvoir d'achat qui diminue aux États-Unis et les prix qui grimpent, les gens ont tendance à se ruer vers les fast-food tout en étant conscients du taux élevé de calories, ça y est, maintenant tout le monde est informé. Réinventer le fast-food, ça serait intégrer plus d'ingrédients et de condiments bio dans les recettes, proposer des menus variés avec plus de salades. Il y a encore du chemin à faire, conclut cet internaute qui est aux États-Unis. Maintenant, évidemment, on a envie d'avoir vos témoignages de vive voix. Que mangez-vous dans les fast-food? Comment utilisez-vous ce service de restauration rapide? 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
On vous attend.
33 1 84 22 71 71.
Soyez les bienvenus.
Avant de donner la parole à nos différents fast-food qui sont dans le studio, puisqu'on va parler des évolutions des fast-food, on donne la parole à une auditrice qui est à Lomé, qui nous appelle du Togo. Bonjour Éléonore.
Bonjour Emmanuel.
Éléonore, vous nous appelez au 33 hein, 84 22 71 71. Je ne sais pas si vous êtes une fan du fast-food ou pas.
Non, pas du tout. J'étais une fan de fast-food, maintenant je ne le suis plus.
Ah bon, vous l'étiez, vous ne l'êtes plus. Et pourquoi donc ?
Il y a beaucoup trop de gras dans toutes les parts. Et puis, il n'y a pas de variété, c'est toujours la même chose. Donc, on a besoin de changer, quoi.
Oui, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous aviez l'habitude de manger dehors, comme ça, rapidement, sur le pouce, comme on dit ?
Des frites avec du poulet, shawarma, burger, voilà. Et puis, je ne mange plus la mayonnaise et le ketchup, donc je ne sais pas quoi j'irai manger dans les fast-foods, quoi. Donc, je préfère faire ça chez moi, à la maison.
Et alors, du coup, comment vous vous organisez ? Parce que c'est tout de même bien pratique, ces services de restauration rapide. C'était sur votre lieu de travail ?
Non, je ne crois que maintenant je ne mange plus beaucoup le soir. Avant le fast-food, c'était plus dans la soirée. Maintenant, je ne mange plus le soir. Donc, j'ai un peu abandonné, voilà.
Ah, parce que vous alliez au fast-food aussi le soir ?
Oui, surtout le soir.
Ouais, parce que
à midi, c'est pas trop ça.
Ouais.
Surtout le soir, quand on n'a pas le temps de faire la cuisine, on va rapidement dans le fast-food.
Vous êtes étudiante, Éléonore ?
Actuellement, je suis salariée.
D'accord, très bien. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Alors, on va donner la parole. Je ne sais pas qui, Bernard Boulboul, vous voulez réagir par rapport à ce témoignage. On sent qu'Éléonore, tout de même, maintenant, se pose des questions quant au contenu de ce qu'on trouve hein, dans la barquette du fast-food.
Elle a raison de se poser ces questions-là. Il faut savoir qu'elle n'est pas la seule, puisque la planète entière, à l'heure où nous nous parlons, remet totalement en cause cette notion et cette image de fast-food gras. Mmh. Des États-Unis en Asie, en passant par l'Europe, sachant que la France est l'un des pays précurseurs à avoir fait bouger les lignes, puisque on est dans un pays où les 3 étoiles au guide du Michelin, il y a maintenant... Allez, une petite dizaine d'années, se sont mis à nous montrer une restauration rapide haut de gamme et beaucoup plus saine. Mmh. Et ils nous ont montré une voie et aujourd'hui, on a une restauration rapide qui se développe sur la planète à partir de la France, très haut de gamme, très saine,
où le gras... Beaucoup plus cher aussi, hein.
Oui, mais c'est justifié. Oui. On a affaire à des consommateurs qui sont prêts à payer plus pour manger mieux. Et c'est le cas et cette dame... ne veut plus manger comme ça et elle a bien raison.
Ouais. Esther Michel, alors il faut que je fasse une confidence quand même aux voisins qui nous écoutent ici à RFI, parce que tout le monde ou presque vous connaît, alors on ne connaît pas votre nom, hein, mais on connaît vos plats japonais, parce que vous êtes en fait installé sur le quai de la station de RER, ici Val-de-Seine, c'est-à-dire sous les fenêtres de nos bureaux. Vous acceptez-vous l'étiquette fast-food ou pas ?
Je vais répondre à la question, je voulais juste rebondir sur l'intervention d'auditrice précédente, voilà, sur le soir. On observe chez nous sommes ouverts toute la journée. Nous avons beaucoup, beaucoup de personnes qui viennent chercher le soir, surtout pour la vie des grandes villes comme Paris. Mmh. C'est-à-dire qu'à Paris, les gens travaillent relativement tard. Et le soir, quand ils rentrent, il y a les transports. Ils n'ont plus envie de faire à manger à la maison. Donc, on vend une grosse partie de nos plats le soir aussi.
Vous vous y attendiez d'ailleurs, parce qu'au départ, vous aviez surtout ouvert pour le midi.
Exactement. Donc là, pour nous, ça a été une découverte. On n'a pas fait d'études là-dessus, mais on se rend compte que beaucoup de gens... Et ce qui est très surprenant aussi... C'est que le midi, les gens achètent un plat ou deux pour manger au bureau ou dans un parc. Alors que le soir, les gens achètent tout de suite 4-5 plats pour la famille. Nous avons beaucoup de clients qui ramènent le repas pour la famille. Parce que
ça revient cher, hein, là, quand même. Il faut quand même dire ce qui est. Hein, si on a une famille de 5 personnes à nourrir, qu'on achète des plats tout près...
Mais en fait, si on regarde ce que vient de dire monsieur, c'est que... oui, c'est cher, mais si vous calculez aujourd'hui avec le coût des ingrédients, etc., finalement, ils retombent sur leurs pieds à avoir un repas complètement équilibré avec des légumes et des protéines de qualité. En fait, c'est l'équivalent d'une sortie au restaurant, mais qu'on fait à la maison.
Alors, qu'est-ce qu'on mange chez vous dans cette équibène, c'est-à-dire restaurant de gare, puisque vous êtes installé sur le quai de la gare dans un tout petit réduit, hein, impeccable,
voilà.
Avec du carrelage, tout est nickel, mais c'est minuscule.
Alors, en fait, c'est très difficile à nous définir. On n'arrive pas à expliquer comment on est pour les Français. Un Japonais va comprendre tout de suite, mais pour les Français, on ne sait pas dire une gargote, comme on a dit avant, un boui-boui. Moi, j'aime bien le mot boui-boui ou gargote. Donc, on a un tout petit kiosque, le mot convient également. Hein, au Japon, on utilise aussi ce mot-là, où on fait des repas. Alors, la particularité, c'est la tendance qu'on vient d'évoquer, d'augmenter la qualité des produits. Et aujourd'hui, en France également, comme on a entendu l'auditrice aussi, ben, on cherche à manger des choses de plus en plus saines.
Qu'est-ce qu'on a dans la barquette ?
Beaucoup de alors du riz, absolument du riz, des légumes, et soit des poissons, soit des plats végétariens à base de tofu, soit des viandes.
Est-ce qu'on peut dire que ça ressemble là à un plateau repas d'une cuisine maison japonaise ?
Tout à fait. Je dis souvent aux clients, c'est comme si vous mangez chez votre tante Yoko. C'est exactement ça.
Ça marche ?
On est vraiment très
content. Vous avez ouvert il y a combien de mois maintenant ?
On a ouvert il y a 1 an et demi. Et aujourd'hui, on est dans une problématique un peu particulière. C'est qu'on a plus de clients qu'on ne peut en servir. Donc, on est dans une bonne problématique.
Je n'osais pas le dire, mais on attend souvent longtemps. Mais ce n'est pas de votre faute. Hein. Effectivement, voilà. Vous êtes victime de votre succès. Pourquoi ça marche ?
Bon, déjà, on travaille sur... on propose une nouveauté minimum par semaine. Ce qui fait que les plats changent tout le temps. Tous les jours, toutes les semaines, on a des plats différents. Et les gens... la cuisine japonaise, on va dire, à la différence d'autres cuisines, on est le plus près possible de l'ingrédient de base. Donc certains clients disent au début, on a l'impression que votre cuisine est fade, mais finalement on s'habitue, donc il faut un ingrédient de très bonne qualité et être le plus près possible du légume, le riz n'est pas salé, et on est très près des... enfin, du goût de la matière principale.
Comment une fille de Strasbourg s'est retrouvée sur un quai de gare en France à cuisiner japonais tout de même ?
Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'association qui s'appelle AFS. Je pense que beaucoup d'auditeurs dans le monde la connaissent.
Oui, on en a déjà parlé dans notre émission.
Voilà. Et donc, je voulais partir un an avec AFS et je ne savais pas trop
donc,
où aller.
C'est une association qui envoie des lycéens dans le monde entier, qui fait des échanges dans des familles.
Hein. Exactement.
Et donc, j'étais lycéenne.
Donc, j'avais 17 ans. Ouais. Et donc, enfin, j'avais 16 ans quand j'ai choisi. Je suis partie à 17 ans. Et alors, j'ai très honte de dire ça aujourd'hui, mais c'est la vérité. Si on regarde la carte du monde avec la France au milieu, le Japon est le plus à droite. On mangeait par terre avec des baguettes. Je trouvais ça rigolo. Donc, j'ai mis une croix sur Japon.
Vous connaissiez rien au Japon ?
Ah non, non, je connaissais rien. Je savais dire je suis étudiante et je voudrais de l'eau. Sachant qu'à l'époque, on ne buvait pas d'eau au Japon, donc ça ne servait à rien.
Donc, vous avez appris le japonais et la cuisine.
C'est ça. Alors, ma maman japonaise me faisait tous les jours un bento pour ramener à l'école.
Votre maman d'adoption.
Ma maman d'adoption, que je continue à voir tout le temps. On se parle tout le temps au téléphone et bien tout le temps. Et tous les jours, j'avais un bento formidable pour ramener à l'école.
Ah oui, parce que les écoliers partent avec leur boîte à l'école.
Voilà, les mamans font les boîtes et on part avec la boîte qu'on mettait sur le radiateur l'hiver pour qu'elle reste chaude.
Carole Izzo, alors vous, c'est la fourchette des anges. C'est un camion qui sillonne une partie de la région parisienne avec de la nourriture végétalienne.
Végétalienne, tout à fait, vous avez bien dit.
Donc là, ce n'est pas une notion culturelle, pays géographique, hein, mais... un type d'alimentation particulière tout de même.
Complètement particulière, parce que si on revient sur le témoignage d'Éléonore, justement, le fast-food, manger gras, pas bien, nous, ça nous revenait aussi, et c'est quelque chose qu'on ne supportait pas non plus tous les jours. Enfin, moi, d'être devant un food truck qui fait du gras et du pas bon pour la santé, c'était pas possible. Donc, on avait envie d'ouvrir cette cuisine végétalienne, hein, pas de protéines animales, pas de lactose, pas de gluten, hein, parce qu'on est, on est parti très haut avec William, mon mari, parce que on se rend compte qu'au niveau santé, on va beaucoup mieux tous les deux.
Mais vous mangez déjà comme ça ?
On commençait à manger comme ça parce qu'on se rendait compte que de plus boire de lait, on allait mieux. Enfin, en l'occurrence pour moi, de plus manger de viande autant, ça vraiment a des bienfaits sur la santé.
Et tous vos clients sont des végétaliens ou au minimum des végétariens
ou
pas du tout ?
Non, carrément pas. On a fait plein de salons du tatouage où on a eu des bikers qui sont venus et qui avaient envie de manger un burger, des viandards. Et ils disaient, ah, mais nous, on veut manger de la viande. Ben non, on n'a pas puisque c'est William qui fait les steaks végétaux lui-même avec des légumineux.
Et vous arrivez à conquérir des consommateurs ?
Eh bien oui, parce que justement, on a voulu ouvrir cette cuisine végétalienne au plus grand nombre. Et on ne fait pas de frites parce que c'est gras. On fait des pommes de terre à la plancha. On fait pas de...
Enfin, à la plancha, c'est-à-dire
avec une huile d'olive.
Un peu,
une plancha, c'est une plaque à gaz où on fait cuire nos patates ou nos légumes, nos poêlées de légumes. Voilà, on fait des soupes maison.
Mais alors, c'est d'abord sain ou d'abord bon ?
C'est les deux. C'est les deux. On était dans l'extraction de jus et on l'est encore. Moi, je fais des jus détox. On fait beaucoup d'extraction de jus. Je ne sais pas si vous connaissez l'extraction de jus par rapport à un blender où on écrase les fruits. Là, c'est une rotation lente à 42 degrés. Donc, du coup, on a tous les nutriments et les vitamines qui restent. Donc, les gens viennent prendre leur jus le matin, vitaminé ou détox. Ça dépend aussi ce que j'ai comme fruits et légumes. Mais non, c'est sain.
Bon. Et bon. Alors, on a un fast-food japonais, on a un fast-food végétalien. Et Émile El-Malem, vous avez ouvert d'un coup 25 points de vente de fast-food à Dakar. Ça s'appelle Tangus Food. Alors, moi, j'ai regardé les menus. On ne peut pas dire que ce soit d'un genre nouveau. C'est de la pizza, c'est du hot-dog, c'est du burger, c'est du donut au chocolat, de la crêpe, du pain au chocolat. Donc là, on n'est pas dans l'innovation pour ce qui est du contenu de la barquette.
Effectivement, on n'est pas dans l'innovation, mais on est dans ce que les gens connaissent, mais on a apporté une touche avec, c'était un défi, c'était non seulement amener la, faire de la qualité, et surtout dans le respect de l'hygiène, quelque chose qui n'est pas toujours facile en Afrique, avec tous les points sont dotés d'un groupe électrogène, d'un réservoir d'eau, parce qu'il faut penser toujours au cas où il y a des pannes d'électricité, des délestages, souvent il y a des délestages, et donc pour ne pas rompre la chaîne de froid, donc on a pensé à tous ces détails-là, y compris l'eau, des fois il y a des problèmes d'eau, et donc on a un réservoir d'eau. Donc il fallait rester surtout, pas innover, mais rester sur quelque chose que les consommateurs sénégalais aiment, découvrent de plus en plus, c'est-à-dire pour certains c'est nouveau.
Mais il y avait déjà des fast-foods à Dakar.
Alors effectivement, il y avait, mais pas avec cette notion, c'est-à-dire ce qu'on a apporté nous en plus, c'est la proximité, c'est la qualité, la propreté, et pas de gras, contrairement à nos concurrents, puisque...
Comment on fait des frites sans gras?
Au four, tous nos produits, c'est, il n'y a pas de friture, c'est toujours... c'est à base de trois types de remise à température. C'est soit avec un four à tunnel, soit un four à convection, soit en micro-ondes.
De la pizza, du pain au chocolat, tout ça.
Le pain au chocolat, il arrive effectivement...
Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon, attendez. Hein, on n'est pas dans une émission santé, on parle de bonne cuisine.
Alors, ce qui se passe, c'est que nous avons une petite unité de production qui fabrique en amont, bien sûr, toute la gamme des pains. Des pains au dog, pains au burger et viennoiseries, etc. On a une plateforme logistique avec des chambres froides et tout, et on livre tout sur tous les points, sachant que tous les points sont, on est en réseau informatique, donc on a exactement, on sait ce qui se passe dans chaque point en termes de vente, en termes de stock, etc. Et on a créé aussi pour justement maintenir la qualité. On a créé deux groupes de personnes qui tournent toute la journée. Une personne pour le QHSE, qualité, pour le maintien et
respect. C'est ça, la vérification de la qualité.
Voilà, donc il y a une hygiène, en etc. permanence, il y a une brigade
qui tourne.
Et pour une autre équipe qui est pour les process et méthodes.
Et qui dit, là c'est mal lavé.
En fait, il y a la méthode et il y a la... Donc il y a sur place...
Vous vous positionnez vraiment sur de la sécurité alimentaire, là.
Tout
vraiment,
à fait, tout à fait. Parce que c'était l'idée. Et en plus, dans des prix compétitifs. Parce que, au fait... Ce qui s'est passé, c'est que c'était devenu une pour manger dans des. Il y a deux types de restauration rapide. Vous avez les hauts de gamme où c'est destiné à des gens qui ont un niveau de vie élevé, qui peuvent se permettre, on va dire à partir de 5 000 francs, 6 000 francs, ce qui fait à peu près 10 euros.
Francs CFA. Hein.
Francs CFA. Et vous avez d'autres qui ont un maximum, un budget de 1 000 ou 2 000 francs CFA, qui veut dire à peu près 3 euros maximum, et eux sont condamnés à aller dans les gargotes. Donc on a dit, on va toucher, nous, cette population.
Donc moyenne gamme, le fast-food moyenne gamme.
En fait, dans la qualité qu'on fait, elle peut aussi attaquer aussi même ceux qui ont des moyens, puisque tous nos produits sont importés, hein, à part les matières, à part le pain et les pizzas qui sont fabriqués sur place, dont l'hygiène, bien sûr, et la qualité. Ouais. Toutes les viandes sont importées d'Europe, dans des marques connues en termes de qualité, en termes de...
Bernard Boutboul, quelques mots de réaction avant qu'on rende l'antenne pour le flash, et bien sûr ensuite on va ouvrir la discussion.
La réaction est très très simple, je trouve qu'autour de la table on a exactement la démonstration de ce qui est en train de se passer sur la planète. Il y a deux évolutions simultanées, la première c'est une montée en gamme généralisée de la planète et ça va dans le bon sens, et en même temps des alternatives aux burgers frites, pizza, bière. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et alors, qu'elle soit japonisante ou végétalienne, il faut savoir qu'en France, il y aurait 18% de la population qui est flexitarienne. C'est-à-dire, ce ne sont pas des végétariens, ce sont des végétariens à temps partiel, on peut l'exprimer ainsi. Je mange un peu moins de viande et puis de temps en temps, je me fais un repas.
Alors,
légumes.
Vous restez tous avec nous, hein, bien sûr, les voisins, les voisines, vous nous appelez pour nous dire comment vous vivez le fast-food dans votre ville. 33 1 84 22 71 71.
Grand Bassam accueille du... Suivre est une rediffusion, restez à l'écoute.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. Quoi de neuf dans la barquette du fast-food? Quelles évolutions aussi pour cette alimentation rapide, en général à l'heure du déjeuner, quoique pas toujours, c'est ce que vous nous disiez. Esther Miquel, vous êtes fondatrice de Coedo, donc un minuscule restaurant de gare, de vente à emporter, de plats japonais. Bernard Boutboul, vous êtes directeur de Jura Conseil, un cabinet de conseil spécialiste de la restauration. Carole Iso, vous êtes fondatrice de la Fourchette des Anges avec votre mari qui est d'ailleurs dans le studio aussi. C'est un camion qui sillonne une partie de la région parisienne avec de la nourriture végétalienne. Émile Elmalem, vous êtes basé à Dakar. 25 points de vente désormais et vous planifiez d'en ouvrir encore plus. Tangus Food, alors vous l'approche, c'est frapper fort et vite. Du fast food sur un positionnement très hygiène avec des prix moyenne gamme, comme les fast food américain très haut de gamme, ni comme le tout petit maquis très peu cher et qui a parfois des problèmes d'hygiène. Voilà les questions que nous posons finalement. Quelles sont les attentes des clients aujourd'hui de New York à Tokyo? Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Dites-nous aussi quel serait votre fast food idéal. Nous sommes en ligne avec Fécasse qui nous appelle de Cotonou. Bonjour Fécasse.
Bonjour Emmanuel.
C'est un prénom Facebook, hein, je présume, Fécasse.
C'est vrai.
Alors, on vous écoute. Que mangez-vous dans les fast-foods à l'heure du déjeuner ou le soir, je ne sais pas.
D'abord, il faut noter que ces restos menus naissent un peu partout au Bénin. Et tout le monde veut manger les hamburgers, shawarma, salades, les frites.
Oui.
Normalement, une laitue cueillie après 6 heures de temps doit entamer le processus de déshydratation. Mais ce qu'on constate dans les restos minutes, c'est que même 12 heures de temps après, elle reste toujours fraîche, ce qui m'a, moi, amené à me renseigner auprès d'eux. Et ils m'ont fait comprendre qu'ils utilisent certains produits pour garder ces laitues-là fraîches.
Ah, d'accord. Dites donc, vous m'avez l'air très curieux pour un consommateur lambda Fécasse.
Je suis étudiant en nutrition et sécurité alimentaire.
Ah. D'accord.
C'est à partir du goût de ce qu'ils préparent que je leur ai proposé cette question-là.
Oui.
Et ils m'ont fait cette confidence.
D'accord. Donc
il faut aussi noter que
ils mettent des conservateurs sur la salade les feuilles de salade qui vont être glissées dans le shawarma, c'est ça?
Exactement. Et il faut noter que tout ce qu'ils préparent aussi, il y a de l'huile qui est en grande quantité, du sucre, beaucoup de sel. Et surtout des colorants pour améliorer le goût et rendre le repas un peu attractif. Donc, nous savons que l'essai de ces produits peut amener tôt ou tard l'obésité, le diabète, le cancer et autres maladies cardiaques. Mais moi, personnellement, comme je suis déjà averti, je ne mange pas dans les restos minutes, mais j'ai par contre une copine qui en raffole. Et ses habitudes d'aller chercher des repas emportés pour ensuite manger devant la télé.
Ah oui, donc c'est la scène de ménage permanente chez vous alors.
C'est ça.
À propos de la barquette du fast-food, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Bon. Merci beaucoup de nous avoir appelé Fécasse. Émile Elmalem, alors vous par exemple à Tangus Food, vous voyez, il y a quand même une méfiance aujourd'hui hein, des consommateurs, y compris sur le continent africain, sur ce qu'il y a dans cette nourriture. Vous faites face aussi à des questions de vos clients à Dakar?
Je fais face puisqu'on n'est pas du tout dans ce concept traditionnel de production d'hamburger.
Alors, c'est du burger quand même,
alors,
de la pizza
oui,
quand même.
Alors, je vais bien préciser. Nos hamburgers, par exemple, on ne met pas de salade parce qu'on est conscient qu'au Sénégal, en tous les cas, on n'a pas la possibilité d'avoir de la salade fraîche tous les jours, propre, etc. Donc, on n'en met pas. Donc, on a quand même créé un concept d'hamburger qui est assez simple. Des sauces très allégées, je ne vais pas citer des marques de France qui garantissent quand même une certaine qualité parce que nous importons tous nos sauces. Et de la viande de grande marque en France, donc de qualité aussi, avec un grammage un pourcentage de graisse en tous les cas très 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 bas. Et c'est du pré-cuit. On a, on fait nous que du, on ramène à la température. Mais... Et donc c'est assez propre, assez sain, parce qu'il n'y a pas de réhausseur, comme il vient de dire l'auditeur, effectivement,
exhausteur
en Afrique,
et une sorte
de goût qui fait qu'on masque. Et ça, c'est effectivement... C'est une, c'est...
On voit bien quand même que les consommateurs commencent quand même à se poser des questions un peu partout sur la planète, Bernard Boutboul.
Oui, ils s'en posent. Et c'est très curieux ce qui se passe quand on regarde un peu l'histoire. C'est les Américains, effectivement, comme vous l'avez dit, qui ont amené le fast-food et ils l'ont amené avec le gras, le sucré et le salé. Aujourd'hui, ils sont en train d'y revenir.
Mais avec une hygiène irréprochable.
Avec une hygiène irréprochable, mais aujourd'hui ils sont en train d'y revenir, non pas sur la côte est, mais sur la côte ouest. La Californie est partie sur une voie beaucoup plus healthy, beaucoup plus bio, beaucoup plus saine. Et l'Afrique qui rentre dans le fast-food repasse par la même case que les États-Unis, avec du gras, etc. Et on va avoir des Africains qui vont vouloir une régression, effectivement, de tout ce qui est lourd. Donc, vous voyez, la planète est en train de bouger à peu près au même moment avec certains continents qui ont quelques retards. Et aujourd'hui, on a quatre zones sur la planète qui sont très en avance sur l'évolution de la restauration rapide. Alors, ils n'ont pas trop de rapport entre eux, entre elles, mais c'est comme ça. C'est l'Australie, la Suède, la France et la Californie.
Ah bon ?
Qui sont trois zones sur la planète qui ont fait beaucoup évoluer ces dernières années leur restauration rapide.
Ouais, alors, si on reprend l'Australie, qu'est-ce qu'ils proposent ?
Eh bien, ils proposent une offre qui est loin d'être américanisée, gras, sucré, salé.
Le kangourou séché, je ne sais pas.
Non, pas vraiment, mais ils sont partis sur le végétalien depuis très très longtemps, bien avant nous. Le bio, c'est une banalité. Mm-hmm. Tout ce qui est healthy, tout ce qui est sans lactose, etc., c'est vraiment aussi presque une banalité chez eux. Alors qu'on n'a pas été habitué à ce type de fast-food. La Suède, ils ont une façon de se nourrir dans l'Europe du Nord qui est totalement centré sur les heures de repas, ils grignotent pas du tout. Et d'ailleurs, le taux d'obésité en Suède est extrêmement faible. La Californie, c'est parce qu'ils sont partis sur quelque chose de très healthy, très...
Bon, un peu
très...
comme l'Australie, donc.
Voilà. Et la France est emmenée par, justement,
ah
cette
non, on
gastronomie.
Veut que ça soit bon. On veut que ça soit bon, quand
même. Ouais, bon, bon, mais on fait attention à ce qu'on mange, quand même, dans le bon. Hein.
Carole Iso,
bon goûtu et bon dans tous les sens du terme, hein. Bon au niveau du goût et bon au niveau de la santé, healthy comme vous dites. Parce que si je reviens sur le burger, nous on fait un burger, c'est nous-mêmes qui faisons la sauce. On l'a fait au lait de coco et moutarde, hein. C'est nous-mêmes qui créons tout.
Ouais. On met de la salade. Attendez, un burger sans viande, il faut m'expliquer là.
Et ben, c'est un burger, c'est un steak que William fait, donc c'est un steak aux légumineux, c'est du haricot rouge, tomate, galette de riz. Alors il est rouge avec des petits points blancs, on dirait que c'est de la viande avec du gras.
Donc il n'y a pas de goût de viande. Hein.
Pas du tout, puisque c'est un steak végétal, mais souvent on nous dit, il était bien cuit, hein. Moi j'ai bien aimé comme ça, il n'était pas trop saignant, je dis mais ça n'est pas du tout de la viande. Comme il a
donc un steak de haricots rouges saignant.
La couleur, il fait beaucoup aussi. Oui. On a d'autres steaks végétaux plutôt aux petits pois ou aux lentilles. Celui-ci, il est rouge, donc il va bien dans le burger et les gens pensent que c'est de la viande et ça n'en est pas.
Esther Michel.
Alors pour les tendances, pour revenir un
japonisante
peu au Japon, c'est un pays de paradoxe, c'est-à-dire que à l'inverse des autres pays, on a rajouté le sandwich après le bento, c'est-à-dire que le bento préexistait au sandwich. Et au Japon, quand vous mettez une nouvelle mode, rien ne disparaît, donc tout cohabite. Et vous pouvez
donc on mange le bento et ensuite un sandwich.
Alors en fait, ça dépend les heures de la journée, ça dépend les personnes, mais vous pouvez tout à fait trouver sur un quai de gare un sandwich de pain de mie au porc pané. Voilà, oui, qu'on aime d'accord. aussi beaucoup. Et donc, c'est tout à fait paradoxal. Je dis toujours aux gens.
En fait, on met le plat, le bento, le viande, légumes, entre deux tranches de pain et ça devient un bento sandwich.
Alors, voilà, on peut avoir un bento ou dans la case, c'est-à-dire une petite boîte, et à l'intérieur, vous avez trois parts de sandwich de pain de mie au porc pané, par exemple. Oui. Donc, rien, au Japon, tout est toujours paradoxal. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit d'une façon, l'opposé est également vrai.
En même temps, Bernard Boutboul, c'est très long de faire changer les goûts alimentaires, non ? Esther Michel nous disait, mes clients, au début, ils me disent « Ah ben c'est fade vos plats, parce qu'ils ne mettent pas de sel, parce que ce sont des produits qui sont très, très peu transformés finalement dans cette nourriture japonaise. »
Ça ne va pas être si long que ça, je vais vous dire pourquoi, parce qu'on écoute le corps médical dans ce sens-là. Et les médecins parlent de plus en plus ces dernières années de maladies cardiovasculaires, de problèmes, etc.
Ah bah ça, je vous le confirme, la priorité santé, c'est un sujet récurrent, l'émission précédant la nôtre.
Et ceci va accélérer nos modifications de comportement alimentaire. Mais ce qu'il faut aussi rajouter, et c'est une grande modification dans le fast-food au niveau mondial, et encore une fois, ce sont les quatre pays qui ont initié ça, c'est cette notion de fait maison, fait sur place, devant le client, qui le sécurise sur ce qu'on lui met dans son burger, dans son sandwich ou dans sa salade.
Et puis c'est toujours meilleur, toute manière. Hein. Même de trancher un jambon sur le moment, par exemple, en termes de goût, c'est meilleur. Il y a une valeur ajoutée, non ?
Absolument. Sauf que le fait minute a un petit problème vis-à-vis du consommateur, c'est que c'est plus lent.
Oui.
Et la question est de savoir, est-ce que le fast-food va ralentir.
Ouais. Alors justement, j'aimerais vous faire un tour de table, là, puisque vous avez des modèles économiques et des modèles alimentaires très différents selon vos différents fast-foods. Quelles sont vos principales difficultés ? Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on lance un fast-food pour vous, Carole Izzo ?
L'emplacement. L'emplacement, parce que...
Vous, votre camion, il bouge, c'est l'avantage.
Il bouge parce qu'on a de la chance d'avoir des directeurs ou des patrons de sociétés qui souhaitent qu'on soit dans des ZAC, hein, des zones à des activités commerciales ou avec des bureaux, des zones tertiaires. Mais sur la voie publique, c'est les mairies, donc il faut faire des demandes. Et souvent, sur la voie publique, c'est pas très accepté parce qu'il y a des restaurants dans les villes, donc on ne peut pas être à côté. C'est l'emplacement.
Plus que la logistique.
L'emplacement et la logistique après.
C'est
parce que vous avez des différents emplacements où vous pensez que vous allez super travailler, donc vous faites un gros stock et il n'y a personne. Et vous allez arriver sur des lieux où là, on est attendu comme les messies parce que justement, c'est une cuisine végétalienne. Donc les gens disent « Waouh, on va manger pas cher » parce que c'est pas cher en plus, nous, ce qu'on fait pour justement l'ouvrir au plus grand nombre. Et là, on fait 200 repas à jour.
Ouais.
Et il faut qu'on conserve de midi à 2h, très vite, parce que les gens n'ont pas beaucoup de temps
pulse,
pour manger.
Hein, dans
et
le camion,
ça pulse,
là.
Ouais, ça pulse. Ouais. On est deux, et il y a des soirs où on est sur des événements, on est plusieurs.
Ouais. Et pour vous, Émile Elmalem, vos principales difficultés, vous qui avez ouvert 25 points de vente de Tangus Food à Dakar.
Je dirais aussi, c'est l'emplacement, il faut bien choisir les emplacements. Donc aujourd'hui, sur les 25 points, il y a certains emplacements qui sont dépendants des écoles. Et comme on est encore en période de vacances, donc ça se termine...
Vous attendez impatiemment la rentrée scolaire, je le sais.
Pour certains endroits, oui. Parce qu'on a remarqué, comme on a ouvert au mois de mai, et qu'au mois de mai, ils étaient encore là. On a vu la différence, effectivement, oui. Une partie du chiffre d'affaires.
Et pas de chance, ce sont les années scolaires les plus courtes, hein, en Afrique, par rapport au reste du monde. On accueille un auditeur qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Loïc nous appelle de Paris. Bonjour Loïc, soyez le bienvenu.
Bonjour.
Alors, vous êtes patron d'un fast-food ? Je découvre sur l'écran. Hein.
Alors, je suis le président de Pit à Pit France, qui est une chaîne canadienne de restauration rapide.
Pit à Pit France, oui.
Voilà, que j'implante en France depuis maintenant 3 ans. Nous aurons 8 points de vente ouverts à la fin de l'année. Et nous sommes dans la tendance que décrivez vos interlocuteurs et vos invités d'une montée en gamme et du manger sain et du manger équilibré.
Mmh. Mais c'est quoi un fast-food canadien, alors ?
Alors, c'est d'origine canadienne, mais c'était dans les mêmes volontés que celles que l'on est en train de découvrir aujourd'hui en France, et cette volonté d'offrir autre chose que le burger, la pizza, le poulet frit.
Donc, il n'y a pas de frites. Il n'y a pas de frites chez vous.
Il n'y a pas de frites. Mmh. On travaille un seul pain, qui est le pain pita libanais, qui est le pain le moins calorique, un des pains les moins caloriques.
Oui.
Et nous avons complètement adapté le concept au goût français, au marché français. Les Français aiment le sucré, nous avons rajouté des desserts. Les boissons, la moitié de notre gamme, ce sont des boissons bio, des boissons développement durable, des boissons en filière courte et en local. Et puis, une offre en termes de protéines, on en parle également, Bernard Boutboul en parlait également, des flexitariens, c'est-à-dire nous avons maintenant une offre végétarienne et végétalienne qui sera l'année prochaine quasiment égale au nombre de protéines animales que nous avons. Donc les clients peuvent choisir entre la viande, le halloumi par exemple, qui est végétarien, c'est un fromage chypriote qui grille, mais également demain...
Oui, c'est canadien, mais c'est vraiment United Color, hein, votre fast-food.
Oui, tout à fait, mais encore une fois adapté au goût des Français, à cette volonté des Français d'une montée en gamme, et également d'avoir autre chose que les 3-4 offres historiques du fast-food, le burger, la pizza et autres.
Ouais. On parlait des desserts. Merci beaucoup de nous avoir appelés, en tout cas. Mais tout le monde peut appeler pour faire sa petite pub de fast-food. Hein. Non, mais je plaisante. Mais en tout cas, non, c'est vrai qu'on a appris quelque chose. Sur les desserts, vous qui avez monté un fast-food japonais, Esther Mikkel, il n'y a pas beaucoup de desserts au Japon. Ce n'est pas une culture du dessert et les Français aiment le sucre.
Alors, si, puisque le Japon, je le dis souvent, c'est un pays éponge, c'est-à-dire que le Japon prend tout ce qui se fait dans tous les pays du monde. Donc par exemple, pour nous le concept, alors nous, contrairement à l'auditeur précédent, nous n'adaptons rien au goût des Français. Ça veut dire que c'est exactement ce qu'on fait au Japon, mais nous avons une chance extraordinaire, c'est que le Japon a été, la cuisine japonaise a été inscrite au patrimoine mondial immatériel de l'humanité par l'UNESCO.
Tout comme le repas à la française, d'ailleurs.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on a une panoplie énorme de choix, donc on a juste à choisir parmi tout ce qui nous est proposé. Et au niveau des desserts, au Japon, on mange... Alors, je peux me permettre une anecdote personnelle.
Mais bien sûr, vous êtes là pour ça aussi.
Quand j'étais au Japon pendant un an et que j'avais 17 ans, j'avais l'impression de jamais avoir fini mon repas parce qu'on mangeait jamais de dessert. Et au bout d'une année, quand j'ai quitté ma famille...
C'est pas très copieux, enfin, excusez-moi, mais dans les restaurants japonais, on mange pas
en
beaucoup.
En fait, au Japon, on dit qu'il faut remplir le ventre
même
à 70%, 80%.
Même moi, j'ai faim quelquefois à la fin du repas.
Oui, parce qu'il faut, en fait, il faut manger 70-80% pour être en forme. Par contre, il faut savoir qu'au Japon, on mange pratiquement toute la journée. On parlait des Suédois qui ne grignotent pas, les Japonais grignotent énormément. Et une année après de partie, c'est ma famille japonaise qui mangeait un dessert tous les jours parce que j'ai réussi à les contaminer dans l'autre sens. Au Japon, on mange énormément de pâtisseries et de sucreries occidentales, pas forcément après le repas, mais dans la journée.
Oui.
Et si je peux me permettre de donner juste quelques mots, il existe un mot japonais qui est wagashi, qui veut dire le gâteau traditionnel japonais. Wa, c'est le Japon, et gashi, c'est le gâteau. Ensuite, on a yogashi, qui est la catégorie. Yo, c'est l'Occident, gashi, c'est le gâteau. Donc, yogashi, les gâteaux occidentaux. Et maintenant, il existe un mot qui s'appelle wayogashi, qui est le gâteau japonais d'influence occidentale ou l'inverse. Par exemple, un éclair au thé vert.
D'accord.
Voilà, c'est un exemple.
Vous et je vais vous proposer un tiramisu japonais
au thé vert.
Et alors, ça, c'est extraordinaire, ça, quand même. Hein. Donc, ouais. Le dessert italien revisité par le Japon, vendu sur un quai de gare à Paris.
Voilà. Et si je puis encore rajouter une dernière chose, c'est que, par exemple, aujourd'hui, nous vendons des choux à la crème. Et tout le monde me dit, mais les choux à la crème, c'est français. Exactement, un chou à la crème, c'est français. Mais c'est rentré au Japon il y a très longtemps. Il existe une énorme chaîne japonaise de choux à la crème. Et sur pratiquement dans toutes les gares, vous pouvez acheter un chou à la crème au Japon. Je pense qu'on mange plus de choux à la crème au Japon qu'en France.
Bon, si on vous a donné l'eau à la bouche, appelez-nous pour nous parler de ce que vous mangez dans les fast-foods, dans votre ville. 33 1 84 22 71 71. Est-ce que vous attendez peut-être d'un fast-food idéal ? Que sais-je ? Quoi de neuf dans la barquette du fast-food chez vous, dans votre ville, dans votre pays. Nous croisons alors plein d'influences avec un fast-food japonais installé sur un quai de gare à Paris, du fast-food végétalien, du fast-food, on va dire, occidental, orient-occident, hein, pour vous, Émile Elmalem, qui avait lancé 25 points de vente à Dakar, parce que c'est, voilà, c'est aussi bien du burger. On parle beaucoup de shawarma, ça y est, je découvre, hein, dans les villes africaines, finalement, maintenant. Aussi bien que du burger, vous en faites aussi, d'ailleurs. Tiens, un message pour vous d'un auditeur, Lamine, qui est à Dakar, nous dit « Émile Elmalem a juste ouvert une chaîne de restaurants, je ne veux pas être condescendant, mais il n'a rien apporté de nouveau à Dakar. En plus, il dit que ce n'est pas possible d'avoir de la salade propre et fraîche tous les jours à Dakar, sic, entre parenthèses. Je lui propose de faire un tour à la zone des Niais tous les jours. Le maraîchage y est en pleine expansion. Peut-être aussi qu'on ne parle pas du même Dakar. » Bon, réponse.
Je vais juste préciser, quand on a un seul restaurant, effectivement, on peut s'appliquer et acheter de la salade et de la préparer.
Oui, on n'a pas dit qu'il n'y avait pas de salade fraîche à Dakar.
J'ai jamais dit qu'il n'y avait pas. Mais quand on a une chaîne, on est obligé de garantir une qualité et surtout une constance. Et c'est pas évident.
Mais c'est vrai que voilà. C'est compliqué ou pas ça d'avoir pas de la salade fraîche ou pas, par exemple, pour la nourriture. Oui.
Non, ce qui vient d'être dit est juste. C'est très facile sur un établissement d'avoir tel produit tous les jours. Quand on a un réseau de 25 points de vente, d'avoir le même produit sur les 25 points de vente de la même qualité tous les jours, c'est extrêmement complexe.
Je pense qu'on a tous le même problème, que ce soit pour les légumes ou pour nous. Les légumes asiatiques, c'est très compliqué à trouver. Et si on avait tous les ingrédients qu'on a au Japon, on aurait une carte qui serait multipliée parce qu'on est limité. Fruits et légumes, c'est compliqué. Même à Paris.
Ouais, nous on est que là-dedans, que du fruit et du légume. Hein. On a rien d'autre et à conserver, c'est pas facile. Hein. On jette beaucoup.
Et là, pour le coup, il y a quand même un problème de qualité parce qu'il y a un petit manque de soleil hein, par rapport à Dakar. Voilà, on va dire. Donc franchement, les fruits et les légumes, c'est pas bon. En dehors de la saison, c'est pas bon en France.
Ah bah ça dépend ce que vous prenez. Après, il faut prendre vraiment les légumes de saison et les trouver dans des fermes. On sait d'où ça vient parce qu'acheter ça dans des grandes surfaces où vous avez des pommes avec un milliard de pesticides dedans. Moi, je fais des jus, je peux pas quoi. C'est juste pas possible de faire un jus qui est bon pour la santé avec un milliard de pesticides
vous
à l'intérieur.
Un positionnement très santé. Oui. Alors, tout ça, on parle un peu de prix, peut-être. Le bento japonais, c'est pas donné.
C'est pas donné parce que les ingrédients, si on revient sur les légumes, quand on est arrivé et qu'on a ouvert, on a essayé de se faire fournir par des gros maraîchers. Les légumes étaient mauvais, flétris. Et finalement, on a passé un accord avec une dame du marché qui vend des légumes sur le marché d'Issy-les-Moulineaux. Forcément, c'est plus cher, mais elle sait exactement ce qu'on veut. Elle nous sélectionne.
Ah là, c'est du local. Hein.
Ah là, c'est carrément du local. Et quand on l'appelle, elle dit « Ah bah les brocolis sont pas beaux cette semaine, je te mets autre chose. » Donc, les ingrédients de base sont plus chers. Les ingrédients japonais sont plus chers, mais nous avons cherché une solution. Alors, on va expliquer pour les clients. On a des clients qui viennent manger tous les jours chez nous. Donc, on est obligé d'adapter le prix. Donc, on a un système où on a décidé, on ne baisse pas la qualité. On a un prix, les bentos sont entre 12 et 15 euros le bento. Mais tous les 100 euros d'achat, nos clients ont 15 euros gratuits. Donc, en fait, vous venez quelques fois.
Vous encouragez la fidélité.
Exactement.
Oui, mais vous auriez 25 points de vente. Comment vous feriez ? La petite dame du marché d'ici, les moulins, ça fonctionne plus.
Si, on travaille parce que c'est une décision. Donc, en fait, quand on décide quelque chose, on va le faire. Et on est en train de voir avec elle pour qu'elle nous fournisse même les légumes asiatiques. Donc, on va la former sur les légumes asiatiques. Pour qu'elle les cherche pour nous. Si je peux me permettre une comparaison de prix, nous vendons une boule de riz en France à 3,50 €. Au Japon, la même boule de riz coûte 90 centimes. Les bento, un plat au curry, si nous on vend le riz au curry, on le vend 14,50 €. Au Japon, le prix au curry va coûter 3,50 €. Donc on est forcément...
Pourquoi c'est beaucoup moins cher le riz au Japon?
Alors déjà, le riz japonais en France, ça coûte très cher quand on...
C'est pas du riz chinois?
Ah non, on prend du riz japonais.
De Thaïlande, qui est le principal.
Non. C'est le riz japonais, c'est une espèce particulière qui s'appelle le japonica. Alors, deux gros producteurs dans le monde, le Japon, les États-Unis. Aujourd'hui, les principaux fabricants cultivent en Italie et en Espagne du riz japonais, ce qui a fait un petit peu baisser les prix. Mais c'est beaucoup les ingrédients.
Alors, l'avenir du fast-food, oui, Émile Elmalem.
Alors, je voulais rebondir aussi sur...
Vous êtes traumatisé par le prix.
Ah non, absolument pas, puisque j'ai précisé pour quelles raisons on ne peut pas... si on n'a pas la garantie de la constance, on ne peut pas s'amuser à offrir, surtout qu'on est là pour la qualité, et c'est surtout notre devise. C'est vraiment propre, manger propre. Et... Alors, au niveau des prix, c'est une innovation quand même, parce que nous offrons, pour donner juste une indication, un menu complet, on est à moins de 3 €. On va dire 3,20 €, 3,30 €, où on peut avoir un hamburger, on peut avoir un cheeseburger, une boisson, et soit un cornet de frites, soit un donut ou une crêpe.
Et pour la nourriture végétalienne, il n'y a pas de viande. Alors évidemment, ça revient moins cher chez vous.
Ça revient moins cher. Les desserts, c'est nous qui les faisons. Donc farine de châtaigne, hein, pour ne pas mettre une farine de blé. Et on fait des boissons aussi nous-mêmes, à la main. Moi, je fais du bissab,
du kéfir. Donc ça ne revient pas du tout moins cher que si on avait un steak haché.
11 euros, un plat. On fait un loc-lac en ce moment. C'est un riz avec un tofu cuisiné,
un
dessert,
que le bento japonais.
Ça fait entre 11 et 13 euros.
L'avenir des fast-food pour vous, finalement, Bernard Boutboul, diversité culturelle ou standardisation dans les barquettes aujourd'hui?
Surtout pas standardisation, diversité, alternative. Et aujourd'hui, on a une amplitude prix, puisque vous parlez de prix, qui va aujourd'hui, si on prend Paris, de 4,50 euros. À 27 euros en restauration rapide. Et je pense qu'il faut qu'on arrête progressivement l'expression fast-food et d'aller plutôt vers une restauration rapide.
Ouais. Il y en a désormais pour tous les goûts, tous les prix, toutes les religions, tous les appétits.
Absolument.
C'est à peu près ça, non?
Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on mange de mieux en mieux.
Merci à vous tous, en tout cas. Esther Michel, fondatrice de Coedo, Carole Iso, La Fourchette des Anges, un camion qui sillonne une partie de la région parisienne avec de la nourriture végétalienne. Emile El Malem, Tangus Food à Dakar. Vous prévoyez d'ouvrir d'autres points de vente. Merci, bien sûr, à tous les voisins et les voisines. Et à toute l'équipe, Camille Nérand, Cécile Lavolo, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi. Demain, 7 milliards de voisins plus jeunes, plus dynamiques. Les grands-parents sont aujourd'hui loin de l'image des vieux d'autrefois. Ils sont aussi plus patients, plus disponibles pour leurs petits-enfants que leurs propres enfants. Alors les grands-parents, si c'était eux les meilleurs parents, eh bien on en discute demain avec nos invités. Bien sûr, on attend vos témoignages. Appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. Appelez-nous surtout aussi si vous avez adoré être élevé par vos grands-parents.